dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Un discours légendaire. Luc Laliberté est avec nous, spécialiste de la politique américaine, prof d'histoire au Cégep. Luc, bonjour, bienvenue à l'émission, ça fait longtemps.
Oui, bonjour Benoît, c'est toujours un plaisir de te retrouver.
Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, ce discours de Martin Luther King qui est un discours légendaire?
Ouais, écoute, plus on l'écoute, parce qu'en enseignement de l'histoire des États-Unis, Martin Luther King et le discours, ce rassemblement-là, ce sont des incontournables. Donc, tu imagines le nombre de fois où j'ai pu l'entendre, le commenter, l'expliquer, le remettre en contexte. Moi, il y a une chose qui vient encore me chercher en 2022 quand j'écoute cet extrait-là, c'est que le travail de Luther King et des autres, parce que Luther King est devenu le symbole de toute la lutte des Noirs durant cette période-là, mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres meneurs, qu'il y a eu beaucoup d'autres événements, mais c'est que ce travail-là n'est pas encore complété, et que dans un contexte qui est différent, on se bat encore pour s'assurer que, pas que les Noirs, parce que Martin Luther King, d'ailleurs, on l'oublie souvent, ne visait pas que les Noirs, il visait aussi l'amélioration du sort des plus pauvres et des démunis de la société américaine. On peine encore en 2022 à garantir l'accès au droit de vote, l'exercice du droit de vote, le respect de leurs droits au sens large des minorités. On peut être à plein d'endroits dans le spectre des réactions, le plus à gauche, plus à droite, plus républicain, plus démocrate. Je pense que c'est difficile de contester que le travail n'est pas complété. Et aujourd'hui, ben, c'est la raison pour laquelle on débutait avec cet extrait-là. C'est la journée Martin Luther King.
Qui remonte à 1963, là, sauf erreur, le discours. Puis Luther King a été assassiné en 1968. Puis en 5 ans, là, ça, il a bouleversé. Puis il y a un documentaire, je sais pas si tu l'as vu, Luc, sur malheureusement Netflix, qui parle de, oui. Je suis en train de le regarder là, et comment il a été surveillé par le FBI, Martin Luther King.
Ben, tu vois, j'allais même soulever, si on a une journée Martin Luther King, c'est qu'il a fallu, bien entendu, que le Congrès puis le président s'entendent sur une journée commémorative, sur un congé férié. On aurait pu faire une journée pour souligner l'héritage de Luther King, mais on en a fait un congé férié. Et quand tu dis on l'a surveillé, il y a un lien avec à quel point ça a été difficile en 1986 pour le président Reagan d'apposer sa signature au bas, donc, de la loi qui émanait du Congrès qui disait on va en faire une journée commémorative, mais un congé férié. Et il a fallu qu'on vote à la Chambre des représentants et au Sénat avec une majorité telle que c'était devenu impossible pour M. Reagan d'apposer son droit de veto. Et une des choses qui chicotait très sérieusement M. Reagan, c'est qu'il avait l'impression qu'on allait commémorer, honorer. Il y avait des coûts à ça, bien entendu, c'est un congé férié. Mais il dit, on commémore quelqu'un dont les gens ont une perception qui ne correspond pas à la réalité. Et on a débattu pendant longtemps de ce jugement-là de M. Reagan, qui a fini par dire à l'épouse de Martin Luther King, écoutez, je suis désolé, il y a certains propos qui ont été retransmis, c'était pas correct, et il a procédé à la signature. Mais M. Reagan s'est opposé jusqu'à la dernière minute à ce congé férié, entre autres en raison de ce dont était suspecté Martin Luther King, c'est-à-dire des accointances avec des mouvements communistes. On a beaucoup parlé de sa vie privée, là, pis de ses relations extra-conjugales. Ça, on s'en est pas gêné pour le discréditer. Mais au-delà de sa vie privée, on craignait vraiment qu'il ne fasse le jeu des communistes. C'est la raison pour laquelle le FBI, la Maison-Blanche, ont surveillé Martin Luther King.
Puis si on veut parler de la vie privée, Luc, on pourrait parler de celle de J. Edgar Hoover aussi, hein? Avec sa collection de robes, on peut, tu sais, ça peut jouer dans les deux sens. Comment se comporte Joe Biden? On s'est pas parlé depuis les élections, mais Joe Biden a l'air affaibli, pas physiquement nécessairement, mais politiquement. Et en plus, Donald Trump qui a tenu un rallye en Arizona en fin de semaine, j'ai pas l'impression qu'il est sur une base solide.
Non, c'est un euphémisme de dire que ça va mal pour monsieur Biden. Sa fenêtre d'opportunité, là, c'était les deux premières années de la présidence. On vient d'en franchir une première, ça ne va pas bien. Ça ne relève pas que de lui, mais disons qu'il n'a pas aidé sa cause non plus. Et au moment où on se parle, là, je vois mal comment il peut renverser la tendance, du moins en tout cas à court, même à moyen terme. Quand on observe les sondages, quand on est à 33-34% d'appui dans les plus mauvais sondages, c'est désastreux. désastreux. On est dans des chiffres qui ressemblent à ceux de Donald Trump, puis à certains moments, même pire. Donc, on sait bien que
c'est pas arrivé. Mais pourquoi?
Voilà, ben dans les choses qui pénalisent monsieur Biden, d'abord, il y a des erreurs qui sont de son propre chef ou de son propre cru. Il y a été il y a eu la sortie catastrophique d'Afghanistan pour laquelle il peut pas nier une part de responsabilité dans la déroute ou les déconvenues. Au final, c'est pas mauvais. L'impression que ça laisse, c'est le chaos. Donc il est pénalisé pour ça. L'économie, ben il arrive pas à profiter des meilleurs chiffres qu'il y a eu parce que bien entendu, ça s'accompagne de l'inflation. Puis, quand on regarde ces projets de loi, on se disait, M. Biden, il a promis qu'il agirait vite, puis il a promis qu'il agirait de façon significative. Le gros problème, c'est qu'aux États-Unis, puis c'était vrai pour Trump, c'était vrai pour Obama, ça l'est aussi pour Biden, c'est un gigantesque paquebot. Virer les États-Unis de bord, ça demande un effort colossal, puis le système le permet pas toujours. Et M. Biden, non seulement il y a une opposition vigoureuse des républicains, puis les républicains, quand vient le temps de jouer en équipe, malgré leurs divergences. Des fois, ça peut déplaire, dépendamment des idéaux qu'on entretient, mais il serre les coudes. Il joue pour gagner. Du côté des démocrates, on est plus souvent divisé. Et M. Biden est pénalisé. Je parlais des droits civiques tout à l'heure, là, puis on parlait de Martin Luther King. Il veut faire une réforme. Il y a deux lois là, pour garantir, soutenir les droits civiques des minorités. Ce qui l'empêche de passer ces lois-là, ce sont pas les républicains. Ce sont deux démocrates, dont une qui l'a humilié, mais alors là, très sérieusement, la semaine dernière, Mme Sinema, qui est une sénatrice de l'Arizona. Donc, Mme Sinema, avant même que Joe Biden aille tenter de convaincre les sénateurs démocrates de serrer les coudes, elle attend même pas que le président se présente au Congrès sur la place publique. Elle dit, moi, j'ai pas changé d'idée, puis il n'y a rien qui va me faire changer d'idée, grosso modo. Donc, on peut tenter d'expliquer la réaction de Mme Sinema, mais pour les démocrates, c'est désastreux. L'image qu'on envoie, c'est celle d'un parti qui a de la difficulté à serrer les coudes. Et l'autre image que les républicains récupère avec succès, si on suit aux plus récents résultats électoraux dans des élections complémentaires, par exemple, c'est la fameuse étiquette de woke. C'est devenu un peu n'importe quoi. Alors, on l'utilise, le terme woke, à toutes les sauces. C'est une réalité, mais en même temps, parfois, on accole ça à des situations qui ont pas rap, comme diraient mes étudiants. Ben oui, il y a une partie du Parti démocrate, surtout une élite plus éduquée, universitaire, dans les grandes villes, qui a fait beaucoup de millage avec cette idée d'être éveillé ou d'être woke. Pour plein d'Américains, ça ne correspond pas à leur réalité ou à tout le moins à leur priorité. Alors, ça devient très facile pour M. Biden, qui ne peut pas faire autrement que de garder cette aile-là progressiste à ses côtés parce qu'il faut qu'il unisse les troupes. En même temps, les démocrates en paient le prix. Ça a été le cas au New Jersey, ça a été le cas en Virginie, puis on imagine déjà une récupération facile. On est en année électorale en passant, hein? On est dans les élections de mi-mandat. Donc, attendez-vous à ce qu'on récupère cet épouvantail-là woke encore bien des fois.
J'ai vu passer, Luc, un mot sur James Carville, l'ancien conseiller de Bill Clinton, qui disait, là, il est temps que le Parti démocrate arrête d'être un whiny party, un parti de pleurnicheurs.
Écoute, Carville, faut toujours faire très attention. C'est quelqu'un qui aime bien parler beaucoup, parler fort. Mais je pense que l'extrait auquel tu réfères, puis l'entrevue complète à laquelle tu réfères, je pense qu'il y a une leçon pour le Parti démocrate qu'on devrait s'empresser d'appliquer. Les progressistes iront pas ailleurs qu'au Parti démocrate. Ce qui peut arriver de pire, bien entendu, c'est qu'ils restent chez eux au moment de l'élection, ce qui est arrivé partiellement sous Mme Clinton. Mais donc, ce qu'on peut leur demander, c'est un peu de patience. On ne peut pas bouger le pays dans la mesure où il faut le faire. Hein. C'est peut-être pas pertinent de le faire non plus, mais on peut pas aller à la vitesse à laquelle les élites ou certaines élites des villes de la côte est, par exemple, ou de la côte ouest, veulent aller. Et on n'a pas le choix. La meilleure option pour eux, ça demeure de voter démocrate. Et M. Carville dit, et je pense que ça, c'est un endroit où je le rejoins 100 000 $, c'est de dire le Parti démocrate ne parle plus suffisamment à l'ensemble des Américains. Quand on regarde, là, puis je discutais avec Alex qui fait la mise en onde, mais qui travaille aussi sur tout ce qui est théorie du complot, là. Quand on regarde le succès que M. Trump obtient encore, c'est que visiblement, il y a des gens qui sont prêts à passer par-dessus les frasques de Donald Trump ou certains mensonges, parce qu'au moins, on a l'impression que les Républicains ou M. Trump nous parlent. Il y a tellement d'Américains à qui on ne parle plus, ou encore, et c'est peut-être pire, à qui on ne sait plus comment parler, que ça handicape les démocrates.
C'est c'est fragmenté, puis là il y a des votes, on dirait le Parti libéral puis le Parti québécois, tu sais, de la belle époque là, tu sais, c'est les chicanes sur la place publique.
Les comparaisons avec le Parti québécois de la belle époque et le Parti démocrate, là, c'est, s'il y a une comparaison qu'on peut faire puis qui est pas complètement dans le champ, c'est bien celle-là. Mmh. On fait le travail de l'opposition, on fait ça entre nous, puis on se livre ensuite sur un plateau d'argent à l'adversaire parce qu'on leur a fourni tous les arguments nécessaires.
Hmm. Avant qu'on se quitte, Luc, un mot sur la Cour suprême et la vaccination obligatoire.
Oui, écoute, ça, tu vois, on disait tout à l'heure, où tu demandais, là, on le fait rapidement, mais pourquoi M. Biden peine? M. Biden, c'est le champion de la COVID, hein, c'est le champion de la vaccination. En anglais, il avait dit « we'll hit the ground running », hein, on va faire des mesures à toute vitesse, là. On est prêt, on embarque sur le terrain, puis on va être fonctionnel dès la première seconde de notre mandat. Ben, comme plein de monde, le variant Omicron le rejoint, puis le président avait dit « écoutez, on a quand même accéléré la vaccination, on rend ça disponible pour une troisième dose », et il dit « moi, je vais aller à la limite de ce que les pouvoirs présidentiels, les prérogatives de l'exécutif me donnent et j'exige la vaccination pour les employés du gouvernement fédéral. Ça, M. Biden pouvait assurément le faire. Et selon ce que le Congrès l'avait autorisé à faire, il pouvait l'imposer pour les compagnies qui ont beaucoup d'employés. Donc, on avait un seuil à respecter. On envoie ça donc devant les adversaires politiques, on envoie ça devant la Cour suprême. Cette Cour, elle est divisée 6 conservateurs, 3 progressistes. Et faut pas se surprendre. Ce qu'on a dit à M. Biden, c'est limitez-vous donc au personnel qui sont directement sous votre autorité, ceux du gouvernement fédéral et pas les autres compagnies. Donc, M. Biden a dit, je vais aller à la limite de ce que je peux faire. Et là, la Cour suprême a, à mon avis, pris une décision qui est controversée, c'est-à-dire que le Congrès avait reconnu cette possibilité au président, et là, c'est le judiciaire qui vient mettre le pied à terre, mais selon une ligne politique assez claire, du moins une opposition, en tout cas, entre conservateurs et progressistes.
C'est déjà plus que les fonctionnaires du Québec, hein? Moins, ils vont l'appliquer. Luc Laliberté, un gros merci d'avoir pris la relève en ce lundi, spécialiste de la politique américaine. J'espère qu'on va se reprendre.
Parfait. Bonne journée, Benoît. Bonne semaine.